France Inter. Le journal avec vous, Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui. Le soleil, fournisseur officiel d'électricité au mois de juin. Pour la première fois en Europe, l'énergie solaire a détrôné toutes les autres sources d'électricité. Grâce à la météo, mais aussi à des capacités de production qui décollent. Explication à suivre. La suite de l'affaire des eaux de Nestlé filtrées illégalement. Le groupe perquisitionné ce matin. 10 milliards d'euros débloqués pour la reconstruction de l'Ukraine. Des entreprises françaises sont déjà sur place. Des mesures pour réduire les délais de traitement pour les personnes qui souffrent de handicap et attendent des aides. Jusqu'à 2 ans d'attente. Et puis le Tour de France, 5e étape, c'est toujours en Normandie. Mais ça grimpe toute la journée. Et nous y serons dans quelques minutes.
France Inter.
Faut-il aider ou pas les énergies renouvelables en France ? On le sait, la question divise en ce moment le gouvernement. Mais dans la réalité, en Europe, énergie solaire et énergie éolienne ne cessent de progresser. Ainsi, en juin, pour la première fois, le solaire a été la première source d'électricité sur le continent devant le nucléaire. Bonjour Cécile Bidot.
Bonjour.
Ça s'explique par l'ensoleillement, mais pas uniquement.
Oui, quasiment tous les pays européens viennent de vivre un mois de juin particulièrement ensoleillé, mais la principale explication, c'est la multiplication des installations. On peut citer les inaugurations récentes en Allemagne, 1 million de panneaux photovoltaïques sur un seul site, ou en Espagne avec une centrale qui alimente à elle seule 150 000 foyers. L'Europe est en train de devenir une centrale solaire, commente l'un des auteurs de l'étude du Centre d'analyse Ember paru ce matin. C'est donc un record historique. 22% de l'électricité consommée le mois dernier en Europe a été produite par le soleil, un bond de 20% en un an. Un record aussi symbolique, vous l'avez dit, le solaire est juste devant le nucléaire, ça se joue à 0,3 points près. 13 pays ont atteint un niveau de production d'énergie solaire jamais vu, 40% du mix électrique aux Pays-Bas par exemple, en France c'est autour de 10%. L'éolien bat aussi des records, arrivant en 3e position derrière le nucléaire. Le charbon est au plus bas, 6%, mais toutes les énergies fossiles cumulées représentent encore un quart de notre consommation d'électricité.
Cécile Bidot, record d'énergie éolienne et solaire donc. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ? Patrice Geoffron, directeur de l'équipe énergie-climat à l'Université Paris-Dauphine.
Pour le photovoltaïque, il y a une dynamique qui est assez soutenue, en particulier parce qu'il y a une meilleure acceptabilité que pour l'éolien. On considère qu'à l'horizon 2030, on devrait, entre aujourd'hui et 2030, viser un doublement des capacités pour avoir des capacités qui avoisinent les 500 gigawatts, donc deux fois supérieures aux capacités actuelles, avec plus de difficultés probablement en matière éolienne. Il y a au cœur de tout ça un objectif de produire une électricité à base de renouvelables à hauteur de 70% à cet horizon. Et donc de marginaliser plus encore le charbon et d'accroître également la réduction des fossiles de manière générale et en particulier du gaz.
Patrice Geoffron, directeur de l'équipe énergie-climat à l'Université Paris-Dauphine. Ce matin, l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, assure que la consommation mondiale de pétrole va continuer à augmenter au moins jusqu'en 2050. L'OPEP qui ne croit pas du tout à une sortie rapide des énergies fossiles. Des perquisitions donc ce matin au siège de Nestlé à Issy-les-Moulineaux près de Paris. C'est une information de la cellule investigation de Radio France. Il s'agit de l'affaire des eaux filtrées illégalement. Les marques Perrier, Contrex ou encore Vittel sont concernés. C'est l'association Foodwatch qui avait déposé plainte. Précision de Marie Dupin.
Oui, ce sont des enquêteurs de la répression des fraudes et de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui ont perquisitionné le siège de Nestlé France à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Avec leur brassard gendarmerie, ils se sont rendus à l'étage Nestlé Waters du bâtiment, la division eau de la multinationale suisse. Cette perquisition, confirmée par la répression des fraudes à la cellule investigation de Radio France, se produit dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le pôle de santé publique du tribunal de Paris après une plainte déposée par l'ONG Foodwatch visant Nestlé pour avoir traité illégalement ces eaux brutes afin de masquer leur contamination par des bactéries et des pesticides. Les deux juges d'instruction en charge de l'affaire vont pouvoir exploiter les données saisies lors de la perquisition pour poursuivre leur enquête.
Information signée Marie Dupin. Les conditions météo conduisent la préfecture des Bouches-du-Rhône à interdire aujourd'hui l'accès à tous les massif forestier du département en raison évidemment d'un risque très sévère d'incendie. Au-delà de Marseille, la vigilance des autorités est maximale autour de la Méditerranée et le préfet de l'Aude s'inquiète ainsi de l'organisation d'un technival dans son département. Une free party sauvage en pleine montagne noire qui débuterait aujourd'hui. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Jérôme.
Ce festival est-il confirmé ?
Alors vous parliez d'énergie renouvelable, ce serait sur un parc éolien et pour l'instant non, ce n'est pas confirmé. Il s'agit de supposition d'une éventualité. Le préfet de l'Aude et la Fédération des agriculteurs du département évoquent des appels sur les réseaux sociaux à ce stade et la potentielle venue de 10 000 fêtards sur place à partir d'aujourd'hui et tout le week-end. L'organisation d'un tel événement serait tout simplement criminelle, avertit le préfet. D'après le maire de Mazamet, le divers droite Olivier Fabre, la rave party pourrait avoir lieu juste à la lisière de sa commune.
Ça va se tenir sur le parc éolien du Sambrès, un site qui n'est accessible que par des petites routes. Et puis après, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer sur le fait qu'on est sur un endroit où il y a des installations techniques et électriques et les questions de sécurité que ça peut aussi poser, évidemment. On aura a priori ce week-end du vent, donc ce qui peut accélérer les départs de feu. Se dire qu'on peut avoir potentiellement 10 000 personnes, c'est effectivement faire courir un grand risque au massif, constitué de beaucoup de résineux qui sont autant de torches potentielles en cas d'incendie.
Et l'élu a demandé à sa police municipale d'être vigilante aux abords de la commune. La gendarmerie est également en alerte. C'est vrai que ces raves sont fréquentes dans la montagne noire toute l'année. Les organisateurs sont agiles. Les lieux de rendez-vous sont généralement codés dans les messages, par définition très difficiles à tracer.
William Delesseux, l'affaire des intoxications alimentaires de l'agglomération de Saint-Quentin. 30 cas recensés, dont une jeune fille décédée et des bactéries retrouvées dans plusieurs boucheries. Les parents de deux enfants victimes intentent aujourd'hui une action en responsabilité contre l'État. Ils demandent des indemnisations pour le préjudice subi. C'est un milliardaire qui possède, comme beaucoup de fortunes françaises, un domaine en Sologne, le paradis des chasseurs. Olivier Bouygues, directeur général délégué du groupe de BTP, de télécom et de médias, sera jugé avec 4 autres personnes en mars prochain. Il est soupçonné de braconnage. Bonjour Nolwenn Lejeune.
Bonjour.
Des cadavres d'oiseaux appartenant à des espèces protégées ont été retrouvés chez lui.
Oui, un véritable charnier découvert début juin lors d'une perquisition menée sur sa propriété du Loiret. Des carcasses de faucons, cresserelles, grandes aigrettes, bus variables ou encore grands cormorans, des espèces protégées car situées au sommet de la chaîne alimentaire. Elles jouent un rôle essentiel, explique Jean-Noël Rieffel. Il est le directeur régional de l'Office français de la biodiversité présent lors de la perquisition.
Par exemple, le faucon cresserelle est un petit rapace qui se nourrit principalement de campagnols, de souris et mulots et qui donc est un auxiliaire du cultivateur car un grand consommateur de rongeurs. Donc il participe à l'équilibre des écosystèmes et quand ces espèces se portent mal, ça veut dire que la santé de nos écosystèmes naturels est en danger. Et les détruire est à la fois un délit et une aberration totale.
Et du matériel prohibé de chasse a également été découvert ainsi que des documents listant les espèces à éliminer et une pelleteuse utilisée pour enfouir les cadavres. Des éléments recueillis, précise la procureure d'Orléans dans un communiqué, décrivent un système de primes et des pratiques qui duraient depuis longtemps en toute saison avec intensification au printemps. Les oiseaux protégés étaient, semble-t-il, tués parce qu'ils nuisaient aux petits gibiers, perdriers, faisans chassés sur le domaine. Les 5 mises en cause, dont Olivier Bouygues, risquent 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende.
Nolwenn Lejeune, le parquet de Paris, lui, se saisit d'une enquête pour harcèlement et provocation publique à la discrimination et à la haine. Cela fait suite à une vague de messages racistes en ligne visant Miss Alsace, Julie Decroix, qui est née au Sénégal. Elle est harcelée depuis son élection le 26 juin dernier.
France Inter, le journal de 13h, Jérôme Cadet.
Jamais la Russie n'a tué autant de civils en Ukraine depuis le début de la guerre. 232 morts et 1340 blessés durant le seul mois de juin, bilan établi par l'ONU, alors que l'Ukraine et ses alliés sont réunis à Rome aujourd'hui pour une conférence sur la reconstruction. Les alliés s'engagent à mobiliser plus de 10 milliards d'euros. Et parmi les participants à ce sommet, 17 entreprises françaises intéressées par ce marché. Certaines sont déjà implantées sur place, d'autres s'y préparent, Noah Perret.
Depuis le début début de la semaine, l'entreprise C3 Médical déploie dans les zones reculées d'Ukraine du matériel médical connecté. L'objectif de cette PME d'une quinzaine de salariés, rendre accessible aux militaires et habitants la téléconsultation avec des médecins dans des grandes villes ukrainiennes. Un investissement pérenne, explique son président Jérôme Soistier.
C'est des solutions qui sont aussi utiles à long terme parce que ce qu'on voit aujourd'hui, je dirais, dans tous les pays du monde, l'Ukraine faisant partie de ces pays-là, c'est une difficulté accrue d'accès aux soins dans les zones rurales et donc la nécessité de créer ou de proposer des solutions de santé à distance qui sont rendues possibles grâce à la digitalisation.
Autre problématique liée à la guerre, l'accès à l'eau. Après l'explosion d'un barrage au centre du pays, la ville de Kryvyi Rog peine à s'approvisionner en eau. Le projet de l'entreprise PAM, reconstruire le réseau de la ville grâce à une nouvelle conduite, explique son directeur Jérôme Lyonnais.
Il y a plusieurs millions de personnes pour lesquelles l'approvisionnement est fait par des camions-citernes avec une qualité qui n'est pas toujours très bonne. Donc le réseau qui va être installé, il va rester pendant des décennies.
Les tuyaux d'une dizaine de kilomètres devraient être mis en place d'ici 2026.
Au cœur de cette guerre, il y a la lutte pour le renseignement. Ce matin, les services secrets ukrainiens annoncent que l'un de leurs agents a été tué à Kiev. En plein jour, le meurtrier cagoulé a usé d'un pistolet muni d'un silencieux. Tandis qu'à Bruxelles, les services européens, eux, traquent les espions. Et voilà pourquoi une traductrice ukrainienne vient d'être mise à pied. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. On lui reproche d'avoir pris des notes pendant un sommet entre chefs d'État. Et ça, c'est interdit.
Ah oui, formellement interdit. La règle européenne est on ne peut plus clair. Le travail des interprètes consiste exclusivement à traduire oralement les propos des intervenants lors des réunions auxquelles ils assistent. En aucun cas à prendre des notes écrites qui pourraient ensuite être transmises et exploitées ailleurs. Face au risque d'espionnage, la Commission européenne veut se montrer intraitable. C'est précisément ce qui a valu à la traductrice en question d'être mise à pied en décembre dernier, prise en flagrant délit par ses collègues qui l'ont vu depuis leur cabine voisine en train de prendre des notes pendant un échange entre les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky. L'enjeu était de taille, il s'agissait de calibrer l'ampleur du soutien européen à l'Ukraine quelques jours après l'élection de Donald Trump qui menaçait déjà de s'en désengager. À ce stade, aucun lien d'espionnage avec la Russie n'a été formellement établi. La Commission reconnaissant simplement un incident lié à la prise de notes qui l'a tout de même conduite à ne plus solliciter les services de l'interprète en question.
Merci Fabien Cazot. 7 mois après le passage de Chido, le Parlement a définitivement adopté ce matin le projet de loi de refondation de Mayotte. Adoption définitive aussi ce matin de la réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille. Tout cela à moins d'un an des élections municipales. Les règles vont donc évoluer. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça change ?
Eh bien jusqu'ici, les électeurs de ces trois villes votaient dans chaque arrondissement ou chaque secteur pour une liste de conseillers. Les élus placés en haut de la liste rentraient au conseil municipal de la ville pour élire ensuite le ou la maire de toute la ville. Désormais et dès 2026, les électeurs vont voter directement pour le conseil municipal, liste unique, comme dans toutes les autres communes de France. Les maires d'arrondissement ne disparaissent pas, mais les deux élections sont décorrélées. En clair, le jour du scrutin, il y aura deux urnes, deux choix distincts à faire, l'un pour la mairie centrale, l'autre pour la mairie de secteur. Les défenseurs du texte estiment que c'est un scrutin qui se rapproche ainsi du droit commun et qui sera plus lisible. Il s'appliquera sous réserve de validation du Conseil constitutionnel, qui se penchera notamment sur l'instauration d'une prime majoritaire de 25% contre 50% aujourd'hui. Donc c'est moins de sièges pour le vainqueur, mais ce qui introduit une nouvelle particularité par rapport aux autres communes de France.
Est-ce qu'on sait à quel candidat cela pourrait profiter ?
Eh bien en théorie, ce nouveau scrutin personnalise l'élection du maire avec une liste à son nom, ce qui va changer la façon de faire campagne. À Paris, par exemple, Rachida Dati mise sur sa dynamique personnelle et s'est démenée en coulisses pour faire adopter ce texte. Les détracteurs de la réforme la qualifient d'ailleurs de tripatouillage électoral au service de Madame Dati. Et puis, il y a l'idée que ce suffrage indirect tordait le résultat du vote populaire. Quelques secteurs qui font l'élection et le vainqueur. À Paris, par exemple, des voix de droite qui ne pèsent pas lourd dans des arrondissements acquis à la gauche, même s'il n'y a aucune automaticité et que, en réalité, pour l'instant, les effets de ce nouveau scrutin en termes électoraux sont incertains.
Marie Mollet, la ministre en charge du handicap, elle, Charlotte Parmentier-Lecoq, annonce des mesures pour alléger les démarches dans les maisons pour les personnes handicapées. Ce sont elles qui étudient chaque année quelques 5 millions de dossiers et certains attendent près de 2 ans pour être validés. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Quels sont les changements ?
Eh bien, tout d'abord, on va réviser les
formulaires, annonce le gouvernement. Aujourd'hui, les dossiers pour obtenir des aides font plus de 20 pages. C'est très fastidieux à remplir. L'objectif, c'est donc de réduire leur taille de moitié. Autre levier, mettre fin à des situations parfois complètement kafkaïennes. Ne pas demander à une personne au handicap lourd et irréversible de renouveler sa demande d'aide. En théorie, c'est la règle, mais elle n'est pas appliquée partout. Récemment, une jeune femme à qui il manque un bras m'a raconté devoir justifier chaque année de son handicap. Absurde, son membre ne va pas repousser, me disait-elle. Pour désengorger les MDPH, des demandes de cartes d'invalidité pour les plus de 60 ans pourraient être déposées directement au niveau des départements et l'intelligence artificielle sera expérimentée pour accélérer le traitement des dossiers. En parallèle, le gouvernement veut humaniser toutes ces démarches. Des rendez-vous en présentiel avec des agents en chair et en os seront systématiquement proposés pour tous ceux qui déposent une première demande de dossier. Ça peut paraître étonnant, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cela nécessite du personnel, du budget. 26 millions d'euros seront déployés au cours de l'année 2026.
Donc on remet du présentiel, comme on dit. Merci Alice Cachelère.
Et de l'humain.
Gabriel et Louise, ce sont les prénoms les plus donnés en 2024. En France, selon l'INSEE, quatrième année consécutive pour Gabriel chez les garçons qui arrive devant Raphaël, deuxième année pour Louise qui devance Jade. Sur le Tour de France, le prénom du jour c'est Kevin, comme Kevin Vauclin, le coureur français, troisième du classement général après son très bon contre-la-montre hier et qui court sur ses terres aujourd'hui. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur la moto France Inter, cinquième étape entre Bayeux et Vire en Normandie. 201,5 km. Le départ a été donné il y a quelques minutes. Les routes sont petites et il y a énormément de côtes. Plantez-nous le décor.
La campagne normande, les petites routes, effectivement, les vergers, le ciel tout bleu, 26 degrés, voilà pour ce décor. C'est une carte postale normande que commence à traverser le peloton, à travers ce que l'on appelle la Suisse normande. Et le décor, il est aussi au bord des routes pour... Les coureurs du coin, vous l'avez dit, énormément de monde encore et énormément de soutien pour Kevin Vauclin qui est natif de Bayeux, troisième du général depuis hier. Et ce sera la même chose un peu plus loin à Sainte-Honorine-la-Chardonne, le village d'un autre Normand du peloton, Guillaume Martin-Guillonnet. La fierté du bocage Ornais, village rebaptisé d'ailleurs aujourd'hui Saint-Guillaume-la-Chardonne et où il sera évidemment très attendu. Pour l'instant, première tentative d'échapper après une vingtaine de kilomètres dans cette étape qui ne sera absolument pas plate. Elle est totalement casse-pâte, 6 côtes, plusieurs dans le final, 3500 mètres de dénivelé. C'est plus que parfois en montagne. C'est l'étape dite de plaine la plus difficile de l'histoire du Tour de France.
Voilà pour le décor de cette sixième étape, Nicolas Perronnet sur la moto France Inter, pilotée par Alexandra Bergel. Le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée d'été.
Avec des températures qui grimpent progressivement par l'ouest, alors souvent 25 à 29 degrés attendus cet après-midi de la Manche vers la région parisienne, le nord-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes. 29 à 32 degrés de la pointe bretonne au sud-ouest et jusqu'à 33 en Méditerranée. Tout ça sous le soleil, juste quelques nuages pour décorer le ciel de l'intérieur des Hauts-de-France vers la région parisienne et les Ardennes. On a un vent de nord reste vers la Vendée, vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine et puis en Méditerranée le Mistral qui persiste autour de 50 km à l'heure en rafale. Pour la fin de la semaine, ça s'annonce estival avec des températures élevées et ce sera souvent bien ensoleillé mais avec un risque d'averses et d'orages tout de même des Pyrénées vers la Méditerranée, le Massif central et les Alpes.
Élodie Calac, Météo France.